affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. L'histoire commence au fond du golfe Adriatique. Il y avait là un monde amphibie composé d'eau et de terres humides. Les hommes commencent à s'établir dans cet écosystème singulier au VIe siècle. Patiemment, ils transforment le paysage et étendent leur influence en se projetant sur les mers comme sur la terre ferme. L'histoire s'emballe au XIIe siècle quand Venise devient une puissance hégémonique. Elle connaît des vies successives au rythme des guerres et du commerce, de la confiance en sa destinée et puis parfois du doute. Elisabeth Crouzet-Pavant nous raconte la trajectoire complexe de cette ville des origines à nos jours dans un livre passionnant aux éditions Belin, cette médiéviste et correspondante de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Elisabeth Crouzet-Pavant, nous avons toujours d'une certaine façon l'idée de Venise comme étant une ville singulière, différente des autres. Et vous, vous avez vraiment voulu l'aborder en historienne, peut-être en oubliant un peu de cette singularité de Venise pour la prendre vraiment telle qu'elle est en travaillant à partir des sources documentaires.
Oui, ce travail repose évidemment sur l'exploitation des archives extraordinaires qui sont conservées à Venise. Et telle est peut-être donc la première singularité relative de mon travail, de mon enquête. Et puis, la singularité de Venise est évidemment manifeste et dès le Moyen-Âge, les contemporains y sont sensibles. Il y a d'abord cette ville construite sur l'eau. Il y a aussi une histoire politique tout à fait originale au regard du reste de l'Italie. Mais je crois que l'important est aussi, pour comprendre la trajectoire vénitienne, de toujours la comparer, de la remettre en perspective, y compris d'abord dans l'histoire de la péninsule italienne. Et c'est, je crois, la deuxième peut-être originalité de mon approche, cette confrontation constante avec le reste des grandes villes de l'Italie du centre et du nord.
Il faut donc s'affranchir des mythes, à commencer par le récit des origines de Venise, qui récemment encore a été célébré, il y a un an tout juste, hein, en 421, qui serait la date de la fondation de Venise. Vous choisissez une autre chronologie, plus archéologique.
Vous avez raison, l'année dernière a été marquée par des célébrations à Venise, organisées évidemment par la municipalité. Et c'était la première fois dans l'histoire de la ville où l'on célébrait cet anniversaire d'une fondation de la ville qui est totalement légendaire. Les origines de Venise sont extraordinairement complexes. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas de fondation de Venise. Dans le bassin des lagunes, vous avez une occupation humaine qui est complexe, fondante, ne peut être que reconstituée que par l'enquête archéologique. Or, si l'archéologie a fait des progrès récemment, malgré tout, beaucoup de choses restent encore à découvrir. Donc, il faut bien comprendre que depuis, l'Empire romain, il y a des hommes dans la lagune de Venise, mais de toute petite communauté en réalité. Et puis, progressivement, au Haut Moyen-Âge, ces communautés se renforcent. Donc, l'histoire des origines de Venise est à la fois très complexe chronologiquement et reste encore très largement à découvrir.
Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une ville antique.
Voilà. Il y a dans la lagune un certain nombre de villas romaines qui étaient soit des centres, des petits centres d'exploitation, soit d'ailleurs souvent, enfin, il s'agissait de points d'occupation qui étaient des péages ou des petites installations portuaires en réalité. Mais le site même de ce qu'on appelle Venise aujourd'hui, c'est-à-dire l'archipel de Rialto, n'est pas un site antique.
Justement, qu'est-ce qu'on appelle Venise? Parce qu'au début, on parlait de Venise avec un S au pluriel.
Absolument, Venise naît au pluriel. Pourquoi ? Parce que au Moyen-Âge, donc lorsque l'occupation humaine commence à devenir un peu plus dense à partir des 6e, 7e siècles, cette population est dispersée à travers un bassin des lagunes dont d'ailleurs l'étendue est alors plus vaste que celle d'aujourd'hui, donc des communautés qui sont installées sur les îlots, sur les cordons littoraux. Il s'agit d'une sorte de confédération, donc les Venises. Et le terme, dans la documentation, persiste très longtemps. Jusqu'au XIIIe siècle, on trouve l'emploi du nom Venise au pluriel, même à une époque où, depuis déjà plusieurs siècles, la communauté humaine qui a pris l'ascendant, qui est devenue capitale, c'est celle donc de Rialto-Venise, Venise aujourd'hui.
Alors, nous l'avons dit, ce territoire n'a pas vraiment connu d'influence romaine forte. En revanche, Venise va se développer sous l'ombre, sous la protection de Byzance.
Les premiers siècles sont évidemment byzantins parce que la lagune, le duché des Vénitiens, appartient donc à cette partie de l'Italie qui demeure byzantine au moment de la conquête lombarde. Or, l'émancipation est tout de même longue à se faire, même si les reconstitutions de l'histoire de Venise dès le Moyen-Âge tendent à nous décrire une Venise naissant libre, ce qui évidemment est totalement faux. Il faut des siècles pour que Venise parvienne à s'émanciper de Byzance. Et pour qu'elle parvienne à prendre ensuite le mieux sur Byzance, en 1204, au moment de la quatrième croisade, lorsque les Vénitiens participent à la prise de Constantinople.
Les relations avec les Byzantins sont assez ambiguës. Tantôt, Venise vient les soutenir et ils sont récompensés, notamment par des franchises d'impôts et l'octroi de certains territoires. Tantôt, ils sont au contraire chassés.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Venise appartenant officiellement à l'Empire byzantin, Venise va soutenir militairement, prêter sa flotte aux Byzantins en Méditerranée pendant un certain nombre de siècles, en particulier lorsque les Byzantins luttent contre les Normands. Et les Vénitiens vont être récompensés en quelque sorte de cet effort de guerre prêté aux côtés des Byzantins par l'octroi, vous l'avez dit, de franchises commerciales à l'intérieur de l'Empire byzantin, franchises qui permettent aux marchands vénitiens de pénétrer très profondément dans l'économie byzantine et d'avoir une position plus avantageuse que celle de leurs concurrents italiens, amalfitains, pisans, génois. Et puis, cette présence vénitienne dans l'économie byzantine se faisant de plus en plus forte, un certain nombre de mouvements vont se lever à Constantinople pour tenter de mettre fin à cette mainmise, en fait, pas seulement vénitienne, mais enfin italienne, des républiques maritimes sur le commerce byzantin. Donc, il y a plusieurs épisodes où, en particulier à la fin du XIIe siècle, où il y a des émeutes à Constantinople et où donc les marchands vénitiens sont massacrés, chassés, emprisonnés, etc.
Vous avez parlé d'une date extrêmement importante, c'est celle du sac de Constantinople. Que oui. Se passe-t-il à ce moment-là? On en a beaucoup voulu aux Vénitiens pour cet épisode.
Oui.
Porte-t-il l'intégralité du tort?
L'intégralité de la responsabilité, certainement pas. Il y a une sorte de légende noire qui s'est bâtie autour de la participation de Venise à la quatrième croisade. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les Vénitiens ont été sans doute les principaux bénéficiaires du partage de l'Empire byzantin entre les croisés, puisqu'ils ont gagné ce qu'on appelle donc le quart de la Romanie, c'est-à-dire toute une série de comptoirs en Méditerranée qui vont ensuite permettre à leur commerce de connaître une nouvelle phase d'expansion. Il est certain que les Vénitiens qui prêtent le concours de leur flotte aux croisés pour passer donc à Constantinople ont joué dans cette quatrième croisade un rôle déterminant, mais ils ne sont pas les seuls.
Nous sommes à ce moment-là dans une époque florissante pour Venise.
Oui, disons d'ailleurs, une époque florissante pour l'ensemble de l'économie de ces villes maritimes. Le XIIIe siècle, en Occident de manière générale, est un temps d'expansion économique, de croissance économique très forte. Et cette croissance se trouve particulièrement stimulée en Méditerranée. Et on voit bien comment l'enrichissement vénitien ou l'enrichissement génois connaissent donc une sorte de temps de très vif d'accélération durant ces décennies. Le premier XIIIe siècle, la première moitié du XIIIe siècle, voit vraiment ce commerce vénitien grâce à cet empire, en quelque sorte, qu'ils ont gagné après la quatrième croisade, connaître un premier apogée, et puis cette croissance continue et gêne durant la deuxième moitié du IIIe siècle, à son tour, connaît une phase de croissance économique extraordinairement forte, de croissance commerciale qui fait qu'autour de 1280-1290, là aussi le port de Gênes est dans une situation vraiment de prospérité extrême.
Gênes, ce sera le grand rival.
C'est ça, parce qu'en fait, tout se met en place justement au cours du XIIIe siècle. On voit bien comment ces deux villes maritimes font en quelque sorte la course en tête devant leurs concurrentes comme Pise, et même s'il y a aussi les Catalans qui interviennent dans le commerce méditerranéen. Et il résulte en quelque sorte de cette compétition de ces deux villes une séquence de conflits. Il y a quatre guerres. La première éclate au milieu du XIIIe siècle, la dernière a lieu à la fin du XIVe siècle, et ces quatre guerres sont vraiment le résultat, si vous voulez, d'une lutte à mort pour prendre la maîtrise absolue du commerce en Méditerranée. Et en fait, quatre guerres terribles, meurtrières, qui perturbent largement tout de même la vie de la Méditerranée, surtout orientale, durant cette période. Mais aucune des deux villes ne réussit à vraiment à détruire sa rivale. Et puis, au cours du XVe siècle, il y aura une sorte de partage du monde, en fait, qui va se mettre en place entre Venise et Gênes. À Venise, plutôt l'Orient, plutôt la Méditerranée orientale. À Gênes, plutôt la Méditerranée occidentale. Et puis, le début de la pénétration en Atlantique. Même si les Vénitiens sont aussi présents en Méditerranée occidentale, bien sûr.
Justement, quelle est la carte des projections vénitiennes?
Alors, les Vénitiens ont une projection qui est originellement vers la Méditerranée orientale. D'abord, leur mer, c'est l'Adriatique, sur laquelle ils établissent d'abord leur mainmise, puis la mer Égée, et leur commerce se déploie d'abord et avant tout en direction, alors selon les époques, les ports changent, mais en direction de l'Égypte et en direction des ports de l'Empire byzantin, avec une percée un peu plus tardive en mer Noire. Alors, progressivement, ils vont aussi s'intéresser à la Méditerranée occidentale, et comme leurs concurrents génois, ils vont aussi, lorsque la route maritime est ouverte, faire commerce, en prenant la route atlantique pour rejoindre les ports comme Bruges ou Southampton, puisque leur fonction est essentiellement une fonction de redistribution. Donc, ils redistribuent à l'Occident une partie des marchandises acquises en Méditerranée orientale ou arrivées d'Orient dans les ports de la Méditerranée orientale.
Et pendant ce temps, la ville s'agrandit. Le poids démographique de ce qu'elle peut représenter est un élément extrêmement important. Venise fait partie des trois plus grandes villes d'Europe.
Oui, vous avez raison. Au moment de l'apogée démographique médiévale, c'est-à-dire autour de 1300, Venise, avec 110 000 habitants, est la troisième ville d'Occident derrière Paris, l'agglomération la plus importante, plus de 200 000 habitants, et Milan qui compte 112, 10, 15 000 habitants de plus que Venise. Donc ce poids démographique était aussi saisissant. Parce que la ville aujourd'hui en compte 50 000. Donc voilà, Venise en 1300 est deux fois plus grosse, plus de deux fois plus grosse que la Venise d'aujourd'hui.
Et dans cette époque de grand dynamisme, il y a une confiance dans l'avenir et cette idée récurrente chez les Vénitiens que la ville est favorisée par Dieu.
Oui, il y a toute cette construction, cette production en fait de mythes à Venise. Et comme disait Paul Venn, hein, les mythes racontent ce qui est profondément vrai. Et l'idée que Venise est favorisée par Dieu et la ville sur laquelle Dieu a posé sa main bienveillante ne se trouve pas simplement exprimée, si vous voulez, dans les chroniques, dans le discours historique, mais dans des délibérations du Sénat, par exemple du Sénat de Venise qui organise le grand commerce international. Vous pouvez trouver à la fin du XVe siècle, hein, nous qui sommes la ville sur laquelle Dieu a posé sa main bienveillante. Et il faut comprendre la naissance de cette ville si puissante, si peuplée, si belle, au milieu des eaux, à la menace des eaux, ne pouvait être interprétée par les hommes du temps que de la sorte. Hein. Il y avait une sorte de don de Dieu. Et cette faveur divine devait se poursuivre pour que la ville puisse continuer à prospérer dans un site qui était un site extraordinairement hostile.
Nous sommes dans l'idée de la jeunesse, quelque part. Emplissez la terre et soumettez-la. C'est ce que font les Vénitiens. Ils façonnent, ils assèchent les terres. Ils construisent les canaux, justement, à cette époque. Et c'est un souci permanent à Venise de transformer le paysage, de se l'approprier.
Oui, il faut bien comprendre que rien n'est, en quelque sorte, naturel, hein, à Venise. Même le réseau des canaux, à part l'axe du Grand Canal et de l'autre canal, celui de la Giudecca, même le réseau des canaux a été complètement façonné par l'homme. Hein, certains canaux asséchés, d'autres ouverts. Donc vraiment, Venise est un artefact. Hein, c'est une construction humaine de bout en bout.
D'un point de vue politique, les Vénitiens vont développer un système original. D'abord, depuis quand ont-ils un doge et qu'est-ce que c'est que cette fonction du doge?
Alors, le doge, le doux, est présent dès l'origine du duché des Vénitiens. Au départ, le doge, évidemment, est un magistrat simplement byzantin, hein, c'est-à-dire qu'il représente l'empereur de Byzance dans ses terres. Même si la reconstruction de l'histoire vénitienne en fait un magistrat indépendant. Alors il y a plusieurs phases hein, dans l'histoire du doge. Durant les premiers siècles, durant le haut Moyen-Âge, une fois l'émancipation de Byzance en marche, le doge est vraiment celui qui incarne le pouvoir et qui dispose d'un pouvoir extrêmement fort. Et puis, à partir du milieu du XIIe siècle, apparaît à Venise, qui existe à la même époque dans les autres villes d'Italie, c'est-à-dire une série de conseils qui forment ce qu'on appelle une commune. Et le mouvement va être celui d'une limitation progressive de ces pouvoirs du doge. Donc, le doge existe jusqu'en 1797, extraordinaire quand même longévité de cette figure, donc jusqu'à la chute de la République de Venise. Mais évidemment, son pouvoir, dès les XIIIe, XIVe siècles, a été restreint. Et donc, il s'agit à ce moment-là d'une magistrature qui est une magistrature élective, hein, c'est-à-dire que le doge est élu par les conseillers avec un système extraordinairement compliqué. Alors, c'est une magistrature qui est à vie, mais comme les doges sont toujours élus fort âgés, ils n'exercent que quelques années cette fonction.
Ce système d'élection complexe a un but, c'est celui de prévenir le jeu des factions, parce que Venise a souvent souffert de rivalités.
Il s'agit en fait de prévenir ce qui est justement peut-être une des plaies qui affectent le système politique de toutes les villes italiennes à cette époque, c'est-à-dire ces luttes entre grandes familles, entre puissantes familles. Et ces systèmes d'élection où à la fois vous avez plusieurs tours d'élection, où on tire au sort les électeurs, etc., avaient pour finalité donc de prévenir en effet la lutte des factions et des liens autant que faire se pouvait le plus sage et celui qui recueillait le plus de suffrages au sein des assemblées.
Et quel est le rôle du Conseil dont les contours vont se rigidifier au fil du temps?
Alors, le principal conseil, c'est ce qu'on appelle le Grand Conseil qui réunit en fait l'ensemble des, on dirait aujourd'hui, de la classe politique, enfin, c'est-à-dire ce qu'on appelle à cette époque-là le régimen, c'est-à-dire des hommes qui ont le droit de participer à la vie politique. À partir de la fin du XIIIe siècle, cette assemblée se ferme et seuls ont droit de siéger au Grand Conseil les membres des familles qui y siégeaient donc à la fin du XIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a à Venise définition très précoce, hein, dès la fin du XIIIe siècle, d'une noblesse de fonction qui va, jusqu'à l'époque moderne, rester fermée. Ce n'est qu'à l'époque moderne, et avec bien des réticences et bien des difficultés, qu'un certain nombre d'ouvertures vont être pratiquées, c'est-à-dire au moment de grandes difficultés financières, surtout liées évidemment aux guerres contre les Ottomans, que la noblesse va être accordée à certaines familles, contre, évidemment, des sommes d'argent extrêmement importantes.
Alors, à Venise, comment se combine à la fois l'articulation entre les intérêts particuliers des marchands, des commerçants, des banquiers, et puis ceux de la communauté ?
C'est une question extrêmement intéressante parce que justement, je pense que c'est là que se joue en quelque sorte vraiment le destin politique et économique de Venise. C'est que vous avez donc quelques centaines ou quelques milliers d'hommes, selon les phases démographiques, qui tiennent l'entier système politique. Siégeant dans les conseils, en même temps, ce sont eux qui décident évidemment de la politique économique de la ville. Donc, on pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une association, en quelque sorte, de familles travaillant pour leur seul intérêt. Et c'est vrai, pour une part. Mais en même temps, il faut tout de même que ces conseils, donc que ces familles, parviennent à maintenir les équilibres et la tranquillité sociale. Hein. Donc il y a tout un système en même temps de contrepoids, en quelque sorte, hein, qui est mis en œuvre pour parvenir justement à garantir la stabilité politique et la stabilité sociale. Or, si vous voulez, par exemple, un des leviers sur lesquels on peut jouer, c'est l'approvisionnement vénitien. Il a été montré que c'est une ville qui est quand même constamment, de manière très, vraiment très continue, très bien approvisionnée, avec par exemple des prix de garantie lorsqu'il y a ailleurs des disettes. Et c'est sans doute un des moyens par lequel, justement, on parvient à garantir l'harmonie sociale et à éviter les troubles politiques et socio-économiques.
Alors, vous parlez de vie successive de Venise. Ce n'est pas une croissance continue. Il y a des hauts et des bas. Et cette période d'apogée du XIIIe siècle dont nous parlons va finalement se terminer par une grande épreuve, celle de la grande peste, mais aussi des difficultés maritimes.
Oui, mais en même temps, et sans doute, et cela, je pense, le plus intéressant de Venise quand on travaille sur la longue durée. Le plus intéressant, à mon sens, est la capacité tout de même de rebond de cet organisme politique et de cet organisme socio-économique. Il y a donc, vous disiez, l'épreuve de la grande peste, la peste noire. Il n'empêche que l'apogée vénitien se situe certainement plutôt dans les années 1410-1420. Donc il y a une sorte de reconstruction formidable du système commercial vénitien à partir de la fin du XIVe siècle. Et il en va de même au XVIe siècle. On a un temps cru que donc la découverte des nouvelles routes maritimes avait porté un coup fatal au commerce vénitien. Or, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Venise a retrouvé sa place en Méditerranée malgré l'arrivée de nouveaux concurrents et le volume des épices qui arrivait à Venise autour de 1560 était largement équivalent à celui qui arrivait au début du XVe siècle. En même temps, la ville développe une industrie à partir de la fin du XVe siècle qui va lui permettre de reconvertir en quelque sorte en partie son économie. Si vous voulez, cette histoire en quelque sorte se poursuit. C'est pour ça qu'il y a des vies successives, mais en même temps des vies successives qui reposent, je pense, sur cette quand même capacité de résilience.
Et où les Vénitiens puissent-ils justement cette capacité de résilience ?
C'est là sans doute une des questions les plus difficiles qui se posent. Alors, je pense que plusieurs réponses peuvent être élaborées. Je pense que d'abord, le système politique vénitien a une extraordinaire capacité tout de même évolutive. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un système qui paraît immuable, qui paraît avoir été mis en place à la fin du XIIIe siècle, le Grand Conseil fermé, le doge, les magistratures, etc. Or, derrière cette image de continuité, vous avez en réalité des glissements successifs, des recompositions successives, et donc quand même une capacité de l'organisme politique à évoluer et à trouver des réponses. Vous avez également une couche d'entrepreneurs, si vous voulez, qui, là encore, est en capacité tout de même, longtemps, alors sans doute parce qu'elle est aussi éduquée, etc., en capacité longtemps à reconvertir le capital, à faire d'autres investissements, à faire bouger en quelque sorte cette infrastructure économique. Donc, il y a, je pense, longtemps une capacité à évoluer, à s'adapter, à se reconvertir, alors que peut-être, mais difficile de le formuler, parce que le risque est évidemment alors de tomber dans celui du déterminisme géographique, mais il me semble quand même qu'il faut prendre en compte justement le site de Venise et le fait qu'il y a eu pendant des siècles cette nécessité à trouver des réponses à la vie dans un site hostile. Hein. Et donc, là aussi, la nécessité à sans cesse composer avec le milieu, trouver des solutions, inventer la vie chaque jour.
Alors, il ne faudrait pas croire que Venise ne vit que sur l'eau. Il y a aussi la terre ferme qui, pendant des siècles, préoccupe les Vénitiens et qui vont grignoter un territoire de plus en plus important.
Absolument, en fait. Alors là, Venise s'est toujours intéressée à son arrière-pays continental. Pourquoi ? D'abord pour des raisons commerciales, puisque évidemment, les Vénitiens redistribuaient à travers le réseau des voies d'eau, d'abord, les marchandises dans tout l'arrière-pays continental. Ce qui fait qu'assez tôt, hein, en fait, ils se préoccupent justement de mettre un pied hein, en terre ferme. Enfin, la conquête véritable se fait à partir du début du XVe siècle et Venise devient alors une vraie puissance continentale. C'est une des grandes puissances italiennes à partir du XVe siècle. Alors, même s'il y a eu des moments évidemment difficiles, au moment en particulier des guerres d'Italie et surtout des guerres de la Ligue de Cambrai, Venise conserve son état territorial qui s'étendait tout de même alors à la fois à l'est, là au nord, il y avait le Frioul, mais qui s'étendait en plaine du Pô jusqu'au milieu du Milanais, hein, conserve cet état territorial jusqu'à la chute de la République, hein, jusqu'en 1797.
Et de la même façon, il ne faut pas croire que les Vénitiens ne font que du commerce. L'industrie, vous l'avez évoqué, est très présente et c'est un point qui vous tient à cœur, visiblement, quand on lit votre livre.
Oui, parce que souvent, l'industrie est totalement oubliée des histoires de Venise qui se focalisent hein, sur la seule projection commerciale. Alors, d'une part, dès le Moyen-Âge, l'arsenal de Venise est la première concentration ouvrière d'Europe. Bon. Et puis, à partir tout de la deuxième moitié du XVe siècle, on voit monter en puissance un certain nombre d'industries, l'industrie du verre, qui va être évidemment extraordinairement prospère aussi au XVIe siècle. De nouvelles industries apparaissent comme évidemment l'industrie du livre. Hein, n'oublions pas que Venise est tout de même le premier centre de production de livres en Europe autour de 1500, et pendant quelques années. Et puis, de nouvelles industries qui sont quand même les industries du luxe, en particulier l'industrie de la soie, très importante là aussi, tout au long de l'époque moderne. Et puis, au XVIe, XVIIe siècle, vous avez tout de même une forte empreinte industrielle avec ces industries du luxe, mais également d'autres industries comme l'industrie de la laine, qui était très faible à l'époque médiévale et qui devient une grosse industrie au XVIe siècle.
Et puis, il y a les arts tirés par des commandes somptueuses et de nombreux commanditaires fortunés.
Je pense que c'est un des aspects les plus intéressants peut-être justement de l'histoire économique au 15e, 16e, encore au 17e siècle. Hein. La richesse accumulée se porte aussi vers des commandes. Alors des commandes spectaculaires, les grands palais, évidemment toute cette, la production picturale, mais en même temps la commande justement simule les arts décoratifs, hein, c'est-à-dire la verrerie de luxe, là, les petits bronzes, etc. Là aussi, c'est un levier extraordinairement important.
Nous sommes aussi, à cette époque, dans une période de peur pour les Vénitiens, notamment par rapport à la menace turque.
Oui, les Turcs deviennent, dès le 15e siècle, évidemment, la principale menace. Alors, la politique de Venise vis-à-vis de l'Empire ottoman va être une politique complexe, hein, parce que beaucoup de traités, de capitulations qui sont d'abord conclus. C'est-à-dire que les Vénitiens préfèrent payer tribut pourvu qu'ils puissent continuer à commercer. Mais il y a en même temps ces périodes, hein, ces séquences guerrières qui sont répétées, hein, à partir de la fin du 15e siècle. Dès la fin du 15e siècle, les Ottomans sont quand même très présents déjà en Adriatique, hein, c'est-à-dire ce qui était la chasse gardée vénitienne, hein, sur l'autre rive de l'Adriatique. Et on voit bien comment là, la puissance vénitienne commence à être ébranlée. Alors, vous voyez, même au moment de Lépante, hein, la grande victoire chrétienne, malgré tout, même si les Vénitiens ont fourni la moitié des bateaux de guerre, ce ne sont plus eux qui commandent la flotte. Hein. Nous sommes passés à l'âge des empires et bien entendu, ce sont désormais les Espagnols, hein, qui mènent le combat, les premiers en Méditerranée contre les Ottomans.
Cela rappelle un fait très présent tout au long de l'histoire de Venise, c'est que c'est la guerre, la violence, la contrainte qui permettent de maintenir, de porter cette hégémonie.
Absolument, c'est une dimension qui est souvent un peu occultée. Venise est une puissance guerrière. Hein. Et si vous voulez, les succès de la flotte commerciale vénitienne s'expliquent d'abord par la puissance de la flotte de guerre vénitienne. Alors, on a évoqué tout à l'heure cette lutte à mort avec Gênes. Ensuite, la lutte avec les Ottomans. Et tout au long, si vous voulez, tout au long de l'histoire de la République, hein, vraiment, il y a cette dimension, hein, qui est évidemment très, très, très présente.
Nous arrivons en 1797. C'est une année de césure. La République prend fin. Que se passe-t-il ? Pourquoi tout d'un coup, Venise cesse d'être Venise d'une certaine façon ?
Oui, c'est un épisode assez, assez étonnant, en quelque sorte, puisque c'est le Grand Conseil de Venise, hein, qui va lui-même voter la fin de la République et la fin du Grand Conseil. Bah, les armées françaises sont là. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'autodéfinis patriotes italiens qui sont favorables à la République française. Hein, et donc, là, on voit bien, les patriciens ont peur, les membres du Grand Conseil ont peur, ils votent la fin de la République qui tombe en quelque sorte comme ça d'elle-même.
Et Venise va être occupée par des puissances étrangères, d'abord la France et puis l'Autriche.
Oui, la France d'abord, puis l'Autriche, et donc à plusieurs reprises, hein, tout le 19e siècle est un siècle qui voit des occupations successives, et le 19e siècle, vraiment à la fin du 19e siècle, est certainement le siècle le plus noir, hein, le plus sombre dans l'histoire de Venise. La première occupation autrichienne est vraiment assez, assez dure. Et la ville, s'appauvrit, hein, tout au long du 19e siècle. Il faut attendre vraiment les deux dernières décennies du 19e siècle, l'entrée dans une des dernières phases de l'unité italienne, pour que la ville recommence un peu à s'industrialiser, etc. Sinon, vraiment, le 19e siècle, période d'effondrement démographique et de ruine économique. Même le port de Venise voit son commerce réduit de manière absolument drastique, hein, jusqu'au milieu du 19e siècle.
Nous avons à ce moment-là un discours de la décrépitude. Vous citez un passage des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. J'en lis une phrase. « Depuis cette époque, Venise décrépite avec sa chevelure de clocher, son front de marbre, ses rides, a été vendue et revendue, ainsi qu'un ballot de ses anciennes marchandises. »
Oui, la phrase est évidemment magnifique et traduit bien ce qui se met alors en place, disons à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il y a, dans les faits historiques, une sorte de phase d'appauvrissement et de déclin de Venise, comme je disais, mais en même temps, Venise qui est certainement décrépite, hein, parce que les palais ne sont plus entretenus, les églises ne sont plus entretenues, etc. Dans les yeux des visiteurs, dans les yeux des voyageurs, la fin de la République de Venise équivaut vraiment, en quelque sorte, à la mort en marche, hein, de Venise. Donc, il y a une sorte de jeu entre la réalité et puis la représentation de Venise qu'ont les visiteurs et qui contribuent encore à diffuser cette image, hein, d'une mort en marche, d'une ville qui est devenue un sépulcre.
Alors, comment Venise va-t-elle se fondre dans l'unité italienne ? Est-ce que quelque part, cela lui donne l'occasion de reprendre une certaine énergie, de retrouver une dynamique.
Il est certain que l'unité, enfin, est accueillie à Venise avec beaucoup de joie, d'enthousiasme. Il va falloir tout de même un certain nombre d'années avant que la ville, peu à peu, ne se relève. Et la fin du XIXe siècle est marquée justement par une reprise qui est essentiellement une reprise industrielle. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine difficulté, je pense, aujourd'hui à concevoir, hein, à s'imaginer la Venise de la fin du 19e siècle avec une sorte de ceinture industrielle. Le port très actif, là, sur le canal de la Giudecca, dans l'île de la Giudecca, toute une série d'usines, des fumées, etc. Enfin, il y a donc un moment de reprise progressive qui donc commence, je vous le disais, à opérer à partir des années 1890, 1900. Et toute cette petite croissance aboutit au projet de Marghera, hein, qui est de construire, cette fois-ci hors du site de la Venise historique, sur le rivage de terre ferme, un nouveau site industriel. Et ce site va être réalisé progressivement au cours du XXe siècle. Hein. Ce sera donc Port Marghera, qui marque vraiment une césure, hein, dans l'histoire de Venise.
Parce que le territoire se recompose totalement. Et ce mouvement sera suivi par aussi le quartier de Mestre.
C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je dis Venise au singulier redevient Venise au pluriel, hein, puisque toujours aujourd'hui, la commune de Venise, hein, comprend d'une part la Venise historique, les îles, mais aussi cette frange assez importante de terre ferme avec Mestre et Marghera. Et donc, le développement d'abord de cette immense zone industrielle à Marghera, puis le développement à Mestre d'une sorte, au départ, ce qui est une sorte de banlieue dortoir, hein, qui est devenue une ville aujourd'hui importante. Le développement de ces deux Venises de terre ferme va conduire en fait à vider la Venise historique, la Venise insulaire, d'une part de ses fonctions industrielles qui vont finalement toutes être transplantées en terre ferme, et la vider également de ses habitants parce que la migration commence. Hein. C'est-à-dire que les Vénitiens, alors souvent horriblement mal logés, hein, faut comprendre, là, tous ces rez-de-chaussée qui étaient insalubres, inondés lors de l'Acqua Alta, etc., mal entretenus, ces Vénitiens choisissent de quitter la Venise historique pour aller s'installer à Mestre dans des logements qui leur paraissent plus agréables, plus modernes, etc.
Ce mouvement commence après la Deuxième Guerre mondiale ?
En fait, il commence à s'amorcer entre les deux guerres, hein, puisque entre les deux guerres, justement, il y a une sorte de dépérissement de l'appareil productif de la Venise historique, mais il devient très puissant après la Deuxième Guerre mondiale, et il a été encore accéléré lors de la Grande Acqua Alta, l'Acqua Grande de 1966, hein, au moment où vraiment il y a, pendant plusieurs jours, l'eau dévaste tout dans Venise, et cet épisode d'Acqua Alta considérable, là encore, a des conséquences à très long terme, hein, fort considérables pour Venise. D'une part, c'est quand même là où il y a une sorte de prise de conscience qui s'est faite qu'il fallait tenter de conjurer les périls qui attaquaient l'environnement et l'écosystème, et en même temps, l'exode vers la terre ferme a été accéléré.
Il y a d'une part un exode et d'autre part l'arrivée en masse des touristes.
Oui, alors les touristes sont évidemment tôt présents. Après tout, ils sont présents dès l'époque moderne, dès le XVIIIe siècle.
Dès le Grand Tour.
Voilà. Et dès le XVIIIe siècle, il y a une véritable industrie en fait des loisirs, hein, du tourisme déjà à Venise. Mais évidemment, comme partout, ce qui marque une rupture, c'est le phénomène de massification du tourisme qui donc se suit au long de la deuxième moitié du XXe siècle.
Avec de nouveau cette idée de mort de Venise, de destruction de Venise qui menace.
Alors, cette représentation de la mort de Venise est, je crois, très présente dans l'imaginaire des Vénitiens aujourd'hui, hein, qui vivent vraiment le tourisme dans leur ville comme une submersion. Et c'en est une, hein, parce qu'avant l'épidémie de coronavirus, il s'agissait de millions et de millions de touristes. Hein. Donc il y a cette idée que la ville est en train de mourir. Pourquoi ? Parce que, en fait, les logements sont transformés en... Ils ont d'abord été transformés en hôtels, puis en B&B, maintenant en Airbnb, parce que les magasins disparaissent. Enfin, au profit de magasins à l'usage des seuls touristes. Donc, plus d'habitations, plus de magasins, mais une ville qui est vécue un peu par les Vénitiens comme un parc d'attractions.
Et vous dites en conclusion que peut-être, une nouvelle fois, Venise pourra défier la mort.
C'est évidemment le vœu que tous formulent, que l'on ne peut qu'avoir dans le cœur. Mais là, ce sont des décisions évidemment politiques, hein, qui doivent être prises. Après tout, Venise n'est pas le seul lieu touristique à travers le monde qui a à faire face à ce problème de la submersion touristique. Hein. Des mesures peuvent être prises et une gestion du tourisme peut être aussi mise en place.
Aujourd'hui, pour conclure, quel regard les Vénitiens portent-ils sur leur propre histoire ?
Un regard admiratif et un regard alors qui n'est pas un regard scientifique, hein, puisque la plupart des Vénitiens, justement, ont de leur histoire une représentation très largement fantasmée, si vous voulez. On voit bien comment le succès ces derniers mois de cet anniversaire complètement légendaire de la ville, le succès montre bien que les Vénitiens, encore aujourd'hui, ont besoin de croire à ces fables sur l'histoire de leur ville, sans doute parce que ce passé glorieux leur permet de mieux vivre un présent qui l'est un peu moins.
Eh bien, un grand merci Elisabeth Crouzet-Pavant. Je rappelle le titre de votre livre, Venise 6e, 21e siècle, c'est aux éditions Belin. C'est un livre assez impressionnant, mais illustré de nombreuses images et qui se lit vraiment avec plaisir. Un grand merci et à bientôt.
Merci à vous. Thank you.
Thank you.